L'invité de la matinale ce matin, Gaspard Koenig. Bonjour Bertrand Haine.
Bonjour Pierre-Yves, bonjour
Monsieur,
à tous.
C'est à vous.
Alors Gaspard Koenig, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, votre dernier roman s'appelle Kidnapping, il est paru chez Grasset. Mais vous êtes aussi plein d'autres choses, hein, Gaspard Koenig. Vous êtes prof de philo à Sciences Po, vous avez été la plume de Christine Lagarde quand elle était ministre de l'économie en France, avant qu'elle soit directrice du FMI. Vous avez créé ensuite un think tank libéral, Génération Libre, et vous étiez hier soir l'invité du mouvement réformateur pour une conférence consacrée à l'économie numérique. Alors vous êtes un libéral assez original puisque vous plaidez par exemple pour un État centralisé fort, pour l'allocation universelle de base. Vous allez nous expliquer tout ça, mais avant, pourquoi vouloir défendre le libéralisme, Gaspard Koenig? Il semble s'imposer un peu partout, il semble avoir gagné la bataille des idées. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être défendu?
Écoutez, quand on entend ce que vous venez de dire sur la taxe soda, on s'aperçoit que les propos de Tocqueville sur l'émergence d'un pouvoir immense et tutélaire qui couvre la société de règles détaillées et minutieuses est plus vrai que jamais. Mmh. Et qu'au contraire, c'est le moment ou jamais pour les libéraux de faire entendre une voix nouvelle. On a une crise de la dette en termes économiques, on a une crise des normes qui empêche des nouvelles activités de se développer. On a une crise morale qui fait que, tout simplement, les individus sont de plus en plus soumis à des règles tatillonnes, compliquées, infantilisantes. Le libéralisme n'a jamais été autant d'actualité et qu'en plus, il a l'avantage d'être une véritable doctrine philosophique. Et c'est ça qui m'a frappé. Vous me demandiez pourquoi j'avais fondé ce think tank. Bien, moi, j'ai étudié la philo pendant 6 ans en France. J'ai enseigné la philo, j'enseigne toujours. Je n'ai jamais eu un cours sur le libéralisme, alors que c'est une tradition française, respectable, on peut la contester. Mais il y a une vraie ligne de penseurs libéraux qu'on a complètement oubliée.
En France, mais si on regarde depuis les années 80 avec Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, le libéralisme anglo-saxon avec Reagan aux États-Unis, etc., est-ce qu'il ne s'est pas imposé de facto un petit peu partout, Gaspard Koenig?
Bon, d'abord, Reagan est le premier responsable de la hausse des dépenses publiques, donc il est détesté par les libéraux américains. Ensuite, on a eu effectivement cet épisode un peu friedmanien dans les années 80, qui n'est jamais que une version possible du libéralisme. Mais tout reste à faire, je pense. Et en Grande-Bretagne, en effet, Thatcher, je trouve, est un modèle d'abord de courage politique, un modèle de conviction.
C'est une de vos références, hein.
Oui, c'est une référence, alors pas forcément sur l'ensemble des politiques qu'elle a menées, mais sur ses convictions intellectuelles et sur la détermination qu'elle a montrée et sur le fait qu'on avait qu'elle s'est imposée d'abord contre l'establishment de son propre parti. Il faut rappeler qu'elle était absolument détestée par les bourgeois conservateurs britanniques.
Le libéralisme, donc, vous dites, le problème de l'époque, c'est qu'il n'y en a pas assez. Si je lis un peu tout ce que vous avez écrit, c'est qu'au fond, on croit être dans une époque très libérale, mais pas assez.
Mais si c'est pour dénoncer le capitalisme de connivence dans lequel nous vivons, je suis le premier à le faire.
C'est quoi le capitalisme de connivence?
Le capitalisme de connivence, c'est qu'en France, que je connais mieux que d'autres pays, mais je pense que ça s'applique largement aux grands États européens occidentaux, dès que vous creusez un peu, vous apercevez que la plupart des grands systèmes industriels, de l'assurance, de la banque, sont extrêmement liés à l'État, que ce sont des oligopoles qui se sont constitués peu à peu, qui ont étouffé la concurrence, qui sont de mèche avec le régulateur. Et en France, on voit à quel point, par exemple, la finance alternative qui permet à des particuliers de se faire des prêts entre eux, aux entreprises de se faire des prêts entre eux, a du mal à émerger à cause de la puissance du lobby bancaire. Donc vous avez un certain nombre d'oligopoles qui se sont installés, que ça soit du public ou du privé, je ne fais pas de différence. Et effectivement, l'économie numérique, la disruption technologique, fait exploser ces structures centralisées, établies, rentières. Et il va falloir les accompagner avec de nouvelles régulations. Et c'est là que les libéraux ont tout leur mot à dire.
Oui, alors cette économie nouvelle qui fait exploser tous les modèles de régulation, vous venez de me dire, elle fait peur aussi parce qu'on voit que le monde dans lequel on vit est en train de changer à une vitesse très, très importante. Et ça, c'est normal que ça crée des peurs. Vous dites dans un de vos ouvrages consacrés à ça que l'économie du partage est l'économie du servage. Donc ça veut dire quand même que quelque part derrière ça, il y a aussi des risques.
Oui, et les gens en sont conscients. Je pense que c'est ce qui explique d'ailleurs la réaction qu'on voit dans la réaction conservatrice qu'on voit dans la plupart des pays, c'est que ce nouveau monde qui émerge est extrêmement angoissant. Il y a l'économie numérique, mais ça va jusqu'au transhumanisme, à l'idée que on va bientôt passer le point de la singularité où le neurone et le silicium vont se connecter, où l'homme va avoir une maîtrise finalement de son propre corps, va pouvoir se transformer génétiquement. Oui. Et ça met en cause nos repères non seulement économiques mais aussi philosophiques, théologiques, moraux. Et donc évidemment ça fait peur. Mais c'est pour ça que au lieu de s'accrocher à l'ancien modèle, au lieu de vouloir par exemple requalifier les indépendants en salariés, il faut inventer un nouveau modèle et y compris un nouveau modèle de protection. Adaptés à ce nouveau monde émergent. Les États-providence, tels que nous les connaissons, ont été conçus après-guerre pour un monde du plein emploi et du plein emploi en entreprise. C'est ce que disait Beveridge quand il a conçu son système. Il a dit « ça ne marche que si les gens ont un emploi à vie ou un ou deux emplois, et puis s'il y a des accidents de parcours, s'il y a des moments de chômage, l'État sera là pour intervenir, pour protéger. » Or, on entre dans un monde complètement nouveau, où les gens vont avoir plusieurs activités, vont être de plus en plus indépendants. Les États-Unis, qui sont un peu toujours en avance sur nous du point de vue sociétal, sont déjà se posent des questions sur la montée très très forte du freelancing. On estime à d'ici 2025 30% de freelancing dans la masse
d'indépendants. Ou on pourrait dire ça comme ça, auto-entrepreneurs en France.
Et donc, et donc, il ne s'agit pas de dire « oh, bah, c'est merveilleux, c'est un nouveau monde d'indépendants et puis chacun va se débrouiller ». Au contraire, il faut repenser nos régulations et nos régulations sociales autour de ce nouveau monde. Mais pour ça, et nous avons une opportunité historique qui est de les refaire entièrement, d'avoir une page blanche. De dire « bon, au lieu, par exemple, d'un système d'allocation spécifique basé sur l'identité et les besoins des gens », nous devons passer à un système d'allocation universelle, comme vous le mentionnez au début, de revenus universels, où chacun, chaque citoyen, chaque résident légal sur le territoire, reçoit une même somme d'argent pour subvenir à ses besoins de base, sans aucune condition. Ça, c'est une forme de protection sociale ou de solidarité qui est adaptée au nouveau monde.
Et ça, c'est une idée, Gaspard Koenig, c'est une idée libérale, l'allocation universelle, parce qu'elle est défendue à gauche comme à droite.
Alors c'est une vieille idée qui remonte à Thomas Paine, donc ça fait deux siècles qu'on en parle, mais c'est quand même une idée qui avait été remise au goût du jour par Milton Friedman, qui est tout de même pas un socialiste, dans Capitalisme et Liberté en 1962, et c'est depuis une idée dont on a beaucoup parlé, qui a failli être implémentée aux États-Unis à la fin des années 70, et qui aujourd'hui reprend vigueur justement à travers et par la Silicon Valley. L'allocation universelle, on en parle énormément à San Francisco parce que voyant le nombre d'emplois qui sont en train d'emplois de classe moyenne, d'emplois d'intermédiation qui sont en train d'être détruits par les nouvelles technologies, eh bien les créateurs de ces technologies se rendent compte qu'il va bien falloir trouver un système, un filet de sécurité pour l'ensemble de la population et surtout un filet de sécurité qui s'adapte à des revenus de plus en plus discontinus. Et c'est là que l'allocation universelle est très forte, parce qu'elle permet de sortir de l'opposition entre chômage et salariat, pour arriver dans un monde où finalement vous aurez des moments de suractivité, des moments de sous-activité, mais on ne pourra plus tellement distinguer l'emploi et le chômage.
Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va devenir de plus en plus des travailleurs intermittents, la durée du temps de travail va exploser, peut-être même la durée de la pension, enfin l'âge légal de la pension va exploser, et on est quelque part condamné à vivre dans cette idée qu'on doit travailler tout le temps, quand à la demande. Est-ce que ça, c'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme, pour revenir à Marx, au 19e siècle?
Justement, mais vous savez que ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e siècle, puisque vous en parlez, c'est les libéraux qui prônaient le salariat, Bastiat, et c'est au contraire les marxistes qui condamnaient le salariat comme une forme d'aliénation de soi, parce que nous sommes dépossédés de notre identité par un patron qui nous dit quoi faire. Donc vous pouvez voir ce nouveau monde comme un précariat généralisé où chacun travaille à la demande. Vous pouvez aussi le voir comme une promesse d'autonomie extraordinaire où chacun sera maître de son propre temps. Et encore une fois, il faut concevoir les régulations adéquates pour que ça soit cette deuxième option qui l'emporte. Vous parliez de la retraite. Eh bien, nous proposons par exemple, pour remplacer les cotisations sociales, patronales et le système de retraite tel qu'il est conçu aujourd'hui et géré de manière centralisée, un compte social unique qui soit une sorte de compte temps que vous abondez au cours de votre vie et que vous pouvez dépenser quand vous le voulez. Si vous voulez prendre un congé sabbatique.
Mais il n'y a plus d'âge légal à un moment. Il faut faire sauter cette idée.
Absolument, parce que je pense que chacun doit pouvoir être maître, encore une fois, de son temps, de son parcours de vie. S'il a envie, par exemple, de prendre sa retraite à 50 ans pendant 10 ans et de se remettre à travailler à 60 ans, il faut trouver un système pour que cela soit possible. Moi, je trouve ça.
Et celui qui n'a pas le choix, qui subit des conditions de vie difficiles, il va peut-être devoir travailler jusqu'à 75 ans.
Pas du tout. Encore une fois, il aura une allocation universelle. Il aura également son compte temps. Il y aura des seuils. Encore une fois, il faut s'organiser pour rendre cela possible. Mais moi, je trouve très humiliant et très infantilisant que l'État se permette de dire aux gens, alors que nous sommes tous si différents comme individus, ah bah vous allez tous arrêter de travailler à 60, à 65, à 70 ans ou que sais-je.
Question difficile en 15 secondes. Qui est le vrai libéral aujourd'hui en France? Qui incarne le libéralisme peut-être le plus proche du vôtre en France? S'il faut citer un nom dans la classe politique française, Gaspard Koenig.
Dans la classe politique française établie, ça serait évidemment Emmanuel Macron.
Il n'est pas à gauche alors? Il n'est pas socialiste, Emmanuel Macron?
Mais vous savez, il y a une tradition de libéralisme de gauche. Je pense qu'à la Révolution française, le libéralisme était un tout. Et qu'au XIXe siècle, il s'est divisé en deux courants. À gauche, il est passé par Proudhon. À droite, il est passé par Guizot et par les orléanistes. Et Emmanuel Macron avait fait un grand interview en expliquant, en se revendiquant d'un libéralisme de gauche. Et ça, ça existe parce que le libéralisme est précisément ce qui permet d'atteindre la justice sociale, de lutter contre les rentes et d'intégrer les outsiders, les immigrés, etc.
Merci Gaspard Koenig d'avoir été avec nous ce matin. Je vous invite à rester dans quelques instants. Alex Vizorek vous sert et nous sert à tous le café serré. 7h54.